On accueille Sylvie maintenant au 39-21. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir.
Bonsoir. Quel âge avez-vous, alors, Sylvie ?
Alors, j'ai 47 ans.
D'accord. Je ne vais pas vous demander d'où vous m'appelez. On va garder tout ça un peu
vague. Bien sûr. C'est, je préfère même.
Très bien. Mais c'est pour ça que
j'ai abordé un sujet compliqué. Alors, ce n'est même pas un sujet, parce que ça regroupe plusieurs choses qui me sont arrivées il y a à peine 3 mois. Voilà. Donc, je vais planter un peu le décor, hein, rapidement. Voilà, en fait, moi, je viens d'une famille, on va dire, très unie. Enfin, ma mère est morte il y a 3 ans, mais mes parents ont eu 45 ans de mariage, enfin, très unis. Donc, voilà, je me suis mariée il y a 20 ans avec un homme que j'aimais passionnément.
Oui.
Pour moi, voilà, la vie devait s'écouler comme ça. J'allais mourir à ses côtés. Enfin, je disais même il y a peu de temps à ma belle-sœur que pour moi, j'imaginais que ma petite urne allait être à côté de la sienne. Voilà. Donc, c'était plié comme ça. C'était d'autant plus fort qu'on a 2 enfants autistes, hein, dont un qui est très, très... qui n'est pas lourd dans le sens où il est verbal, il a même un très bon QI, mais qui peut avoir des crises de violence, enfin qui peut être assez agressif,
oui.
Et qui est très dur à gérer. Donc tout ça, je dirais, je l'ai géré vraiment presque toute seule, vraiment à bout de bras. Je me suis battue, enfin vraiment, ça a été extrêmement violent, très dur ce qu'on a vécu. On a été obligé de placer notre fils aîné. Parce qu'on n'en pouvait plus, on avait un petit garçon, enfin un bébé à l'époque, c'était très difficile. Donc ça a été vraiment des décisions très dures qu'on a dû prendre, et moi j'ai toujours ameuté les troupes, voilà. Et il y a 3 ans, donc ma mère est morte, et un an plus tard, en fait, je me suis un peu révélée. C'est-à-dire que je me suis, j'ai commencé à prendre confiance en moi, chose que je n'avais pas du tout confiance. Pour moi, j'ai été aidante familiale, autant dire rien, puisque c'est le cas en France actuellement. Et je ne pensais pas valoir grand-chose. J'ai fait des études d'art, pourtant très poussées, hein, en art appliqué, et pourtant, j'ai absolument pas confiance en moi. Et il y a 2 ans, j'ai re-rencontré un ami que je connaissais déjà il y a 16 ans, hein, oui. Quand nos enfants étaient bébés, et puis étaient petits. Et puis, lui m'a aidé beaucoup dans l'autisme, parce qu'il connaissait des gens. J'ai pu me faire vraiment comprendre, j'ai pu vraiment avoir des bons interlocuteurs. Ça a vraiment avancé, le dossier de mon fils, vraiment. Au point que là, il a 18 ans, qu'il est pris en charge par le conseil départemental. Il a un appartement dans un foyer jeune travailleur. Il est aidé par 2 organismes, enfin au quotidien. Et donc vraiment, ça c'est vraiment une énorme bataille que j'ai gagnée, que j'ai gagnée, quoi. Et donc à l'aube de ses 18 ans, donc fin janvier, j'étais pas bien, c'était bientôt la majorité, je sais pas ce qu'il allait devenir, on m'a demandé une curatelle, enfin c'était très difficile. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est que mon mari m'a violée.
Voilà. Comment ça?
C'est-à-dire qu'en fait, ça couvait. C'est-à-dire que, comment vous dire, déjà depuis 2 ans, j'ai perdu beaucoup de kilos. C'est-à-dire que j'étais vraiment, quand je dis en obésité, hein, j'étais quand même à 98 kilos et là je suis à 71. Hein. Donc j'ai perdu énormément, énormément de poids. Et je mettais ça sur le fait que mon fils avait beaucoup pris de poids à cause des médicaments et puis au fait qu'il est boulimique. Donc ça, voilà, je sais pas. Je mettais ça sur ce compte-là et je me suis aperçue qu'au fur et à mesure que je me libérais, c'est-à-dire que j'allais vers une libération, vers des choses où je m'apercevais que j'avais du talent pour certaines choses, je sentais une oppression. Une oppression qui était à peine palpable. Enfin, mon mari commençait souvent à parler de viol, c'est-à-dire me disait « Ah, je vais te violer ce soir », mais toujours sous le ton de la plaisanterie, ou quand j'avais les mains, dans une pâte, je fais beaucoup de cuisine, et il est derrière moi, il me disait « Tiens, j'aime bien te toucher quand je peux pas, quand tu peux rien faire ». Donc, je lui ai parlé, je lui ai dit « Bon, ça dure... » Bon, voilà, ça durait, je disais qu'il était trop brutal. J'en ai parlé à donc mon ami avec qui j'ai travaillé, avec qui vraiment il y a une grande amitié qui s'est développée. Et je lui dis qu'il était un peu brutal. Et j'ai été hospitalisée au mois d'octobre parce que justement à cause des problèmes de mon fils aîné. Et à la sortie de la clinique, je me souviens nettement lui avoir dit qu'il était trop brutal dans ses rapports avec moi. qui parlait beaucoup du viol, que voilà, il y avait, il mettait ses mains autour de mon cou, par exemple. Moi, souvent, au début, je m'étais dit, voilà, c'est un jeu. Enfin, oui. J'arrivais pas à prendre la mesure de ce que ça pouvait déclencher chez lui, quoi. Et donc, on arrive au mois de janvier, voilà, fin janvier, et là, je lui dis clairement, non, je ne veux pas, le matin, j'étais pas bien, la veille, j'étais pas bien, à cause de, voilà, je... Et puis, il me dit, t'inquiète pas, je vais pas, enfin, je vais pas te prendre, j'ai mon slip, donc voilà. Et les enfants s'engueulaient en bas, donc il va les engueuler, il remonte. Et là, il me retouche, donc ça durait quand même depuis un moment, et je vais pour sortir du lit, et là, il me coince, et je vois qu'il avait enlevé son slip, et il me dit, je lui dis, tu m'as menti, et voilà, il tient pas compte, il me fait un petit sourire, et voilà. À ce moment-là, je me suis dit, je vous avoue, les deux premières secondes, je me suis dit, je vais faire semblant, comme ça, on va, enfin, je vais me croire à moi-même que finalement, j'ai cédé, mais que ça porte pas conséquence, quoi. Et je pense que ça s'est joué en 30 secondes, je me suis dit non, je peux pas. Et d'un seul coup, je l'ai regardé et il faisait pas du tout attention à moi, hein. J'avais pas un regard, rien. Et c'est comme si qu'on m'avait pris ma tête derrière moi et qu'on m'avait dit, Sylvie, regarde jusqu'où il peut aller. Et j'ai vu. Et une fois qu'il a terminé, tout de suite, j'ai dit, est-ce que tu te rends compte que ce que tu viens de faire peut s'apparenter à du viol conjugal. Et là, il a eu une réponse hallucinante qui a été « Je ne le recommencerai plus. » Et là, j'étais complètement abasourdie.
Je ne le recommencerai plus.
Non, je ne le recommencerai plus. Comme un enfant, je ne recommencerai plus. Donc,
il savait ce qu'il avait fait, donc.
Alors, je ne sais pas. Alors, voilà, ce qui s'est passé après, c'est qu'il m'a parlé comme si que rien n'était. Je lui ai dit que quand même c'était grave et il a dit ah oui excuse-moi je sais pas ce qui m'est arrivé mais en revenant il commence à me faire des allusions sur mes fesses et puis il commence à essayer de négocier des pratiques sexuelles
encore à nouveau
encore comme ça comme si rien n'était et là je suis revenue dans la cuisine et je lui dis mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de faire je lui dis tu viens de me violer et là il fallait regarder comme si que il se rendait pas compte en fait de ce qu'il avait fait. Et ça m'a beaucoup perturbée. Donc, ça a duré. Bon, je vous avoue qu'il s'est passé environ une semaine entre le moment où j'ai vu que c'était un viol et le moment où j'ai pris la décision de quitter. Donc, une semaine où, en fait, mon historique Google, on peut en témoigner. C'est-à-dire, j'ai fait toutes les recherches possibles, du style comment renouer après un viol conjugal, mais impossible de trouver. Enfin, des choses comme ça. Après, ça a été des appartements. Donc, et puis, bon, donc j'ai dit à mon mari, voilà, moi, je peux plus. Je peux pas continuer comme ça, sachant que ce serait me perdre. Et je ne veux pas me perdre. Je refuse de me perdre. Donc, je lui ai dit, écoute, tu dis ce que tu veux de ton côté à ta famille, pour les raisons de notre divorce, mais moi, sache que je ne me tairai pas. Je ne me suis jamais tue et je ne veux pas taire ma parole. Donc, en fait, je suis très amie, il faut savoir, avec ma belle-sœur. On est très, très proches. Et donc, je reçois un coup de fil de ma belle-sœur qui me dit, oui, voilà, il m'a dit que, mon frère m'a dit qu'il t'avait trompé, c'est un salaud, enfin, voilà. Donc, je lui dis, oui, bon, c'est un fait. Et elle me sort une petite phrase, une petite chose qui m'a fait bondir, qui m'a dit, je veux dire, mais il y a quelque chose, quoi. Elle m'a dit, voilà, il a toujours eu des problèmes avec sa sexualité, enfin, ça a toujours été bizarre. Donc, je raccroche et j'en parle à mon meilleur ami. Puis, il me dit, écoute, il y a un truc bizarre, il faut que tu creuses, quoi. Donc, je la rappelle, je dis, qu'est-ce que t'entends par là? En principe, une sœur n'est pas censée savoir ça. Et je lui dis, écoute, on va arrêter là. Je sentais qu'on allait vers un terrain glissant. Je lui dis, voilà, il ne m'a pas trompée, il m'a violée. Et là, elle me dit, voilà, ben, moi, il m'a touchée. Il m'a touchée quand j'étais enfant. Il m'a demandé, voilà, faire des gestes, enfin bref, et elle avait 10 ans et lui avait 14-15 ans, quoi. Donc ça veut dire que bon, c'était pas quelque chose du touchy-toucha, quoi. Je veux dire, c'était bien plus. Donc là, c'était le monde qui s'effondrait. Tout de suite, j'ai pensé aux enfants. J'ai appelé la psychologue de mon fils pour savoir s'il n'y avait pas un problème. J'ai expliqué la situation. J'étais très, très angoissée et je me suis dit, je vis avec un homme que je ne connais, que je n'ai jamais connu. Donc là, c'était la panique à bord. Je suis partie chez mon père. Enfin, c'était très difficile. J'en ai parlé à mon père qui a 86 ans. Ça a été horrible pour lui, quoi. Ça a été horrible. Il m'a beaucoup aidée, quoi. Et puis, j'ai vu mon psychiatre aussi, et, bon, qui est en plus spécialisé dans les, voilà, dans les auteurs de violences sexuelles. Et il m'a dit, écoutez, voilà, il y a deux choses. Bon, moi, je travaille avec le judiciaire. Et il me dit, je suis aussi votre médecin. Et je pense que, bon, le mieux, c'est que vous divorciez, voilà, à l'amiable, parce que c'est ce que je voulais, que vous laissiez ça... Vraiment, ça aille très vite, quoi. Parce que vous avez été objectisé pendant longtemps. Parce qu'il faut savoir que moi, j'appelais des numéros verts aussi. Et tous m'ont dit, bien sûr, que c'était un viol conjugal. Mais le pire, c'est que je me suis rappelée de beaucoup de fois où, en fait, j'étais dans cette situation et où je ne me suis pas rendue compte. Notamment où une fois où c'était notre anniversaire de mariage et où il a mis du poppers dans ma coupe de champagne.
Oh là là.
Et où je m'en suis rendu compte. Et j'étais coincée, donc je l'ai engueulée, mais comme un petit enfant en fait, mais je me suis pas rendu compte à quel point il était enfant. Et j'ai pas compris l'ampleur que ça avait pris. Et quand j'ai su ça, donc bon, ça a été terrible par rapport à sa sœur, bon. Et puis bon, à un moment, bon, obligée par rapport aux enfants, bon, il a fallu l'annoncer. Et je lui dis de partir. Il a été chez un collègue et puis un soir, il revient, enfin, parce qu'il devait chercher quelque chose. Et il me dit, voilà, j'ai un collègue, voilà ce qui s'est passé. Hier soir, il m'a fait boire et fumer donc du cannabis, chose qu'il ne fait jamais. Il n'a jamais fumé, enfin, quoi que ce soit. Et il s'est glissé dans mon lit et il m'a demandé si je voulais une fellation. Et la façon dont il me le disait, pour lui, il me laissait entendre que c'était de la drague. Et là, j'ai pris conscience, je dis oulala, oulala. Je dis, est-ce que tu te rends compte que quand même, enfin, obtenir des faveurs sexuelles par le biais de moyens comme l'alcool, la fumette, etc., c'est comme une agression sexuelle. Et je me souvenais vaguement, il y a assez longtemps, d'un épisode qui m'avait dit, il m'avait raconté qu'un voisin lui avait une fois pris des testicules et les avait serrés fort. Et j'avais demandé si ses parents avaient porté plainte à l'époque et ça n'avait pas été le cas. Donc j'avais été choquée, j'ai demandé des précisions. Il m'avait dit, bon, ma belle-mère s'était plainte auprès du voisin et que ça s'était arrêté. Mais sans plus. Et donc là, d'un seul coup, je sais pas, ça fit flash dans ma tête. Et je lui dis, mais ce voisin, mais dis-moi en plus, c'est bizarre. Enfin, il y a quelque chose que je comprends pas. Et d'autant plus que ma belle-sœur, non seulement en m'avouant que mon mari l'avait agressée sexuellement, elle m'a aussi annoncé que son propre cousin l'avait violée. Donc, et là, je commence à parler de ça et il me dit qu'en fait, il se souvient très bien que le fameux cousin en question a été agressé par ce voisin.
Oui.
Et que lui, il se souvient, enfin, il y a des flashs qui lui reviennent, donc je lui dis, mais t'as été agressée. Et donc, c'était terrible. Donc, en effet, les jours qui ont suivi, il se souvenait de certaines pratiques, des choses qui ne pouvaient pas exister, enfin, dans la tête d'un enfant de 9 ans, quoi. Et le pire, c'est que ça s'est arrivé, si vous voulez, il a perdu sa mère à 9 ans, et son père, bon, il y a eu un temps, ses grands-parents sont venus, si vous voulez, pour s'occuper d'eux, mais ça se réduit, qui avait 4 ans à l'époque, et bon, sont partis. Et en fait, ce voisin s'est proposé, quoi, de s'en occuper des deux. Et ce qui a dû se passer, enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des viols. Et j'ai appris également, donc j'en ai parlé à ma belle-sœur, ma belle-sœur m'a dit qu'une de ses amies, elle avait appris il y a 8 ans, qu'une de ses amies avait été violée par ce même homme. Donc ça, j'en suis à référencer déjà 6 victimes. 6 victimes. Bon, l'homme est mort. Donc, il n'y a plus rien à attendre de ce côté-là. Donc, moi, de ce côté-là, j'ai dit, voilà, j'ai dit à mon ex-mari, j'ai dit, voilà, moi, je ne te veux pas de mal, je veux que tu te reconstruises parce que, bon, ok, bon, t'es mon bourreau, mais t'es aussi une victime, donc c'est très dur pour moi de me positionner. Moi, ce que je peux être, c'est pas ton amie, mais c'est être bienveillante. Et je lui ai dit, la seule chose, si tu veux avoir des réponses ou des brides de réponses, c'est d'en parler à tes parents. Parce que eux, peut-être qu'ils avaient, enfin, je sais pas, entendu parler, je ne sais pas. Et bon, faut savoir que mes beaux-parents, on ne les côtoie plus depuis 18 ans, depuis la naissance de mon fils aîné, puisque c'est des gens qui sont, comment vous dire, qui sont insensibles, c'est-à-dire sans cœur. Ils sont venus pour des histoires d'argent, ils m'ont écrasé la tête sous l'eau en me disant qu'ils ne m'avaient jamais aimé, qu'ils ne m'avaient jamais, enfin, qu'ils ne m'aimeraient jamais. Enfin, c'était terrible. Donc, on n'a plus gardé du tout contact. Et bon, malgré ça, pour leur bien, enfin pour leur bien-être, j'ai conseillé à mon mari de faire. Donc il a appelé son père. Et il a parlé de tout ce qu'il avait subi, fait subir à sa sœur, m'avait fait subir.
Il a avoué que tout ce qu'il avait fait à sa sœur. Il vous l'a dit.
Oui. Il a avoué à son père, il a avoué qu'il s'était fait agresser, il a tout balancé. Au début, il l'a balancé à sa tante, parce que je lui dis, voilà, ton père, bon, c'est quelqu'un de très très malsain. Moi, personnellement, je n'ai vraiment aucune confiance en lui. Je lui dis, voilà, tu as une tante, donc c'était la sœur de sa mère, qui est fiable à mon avis, de lui en parler en premier. Donc il lui en a parlé. Au début, il lui a parlé que de son viol, et je lui ai dit que c'était pas juste, parce qu'il fallait dans ce cas-là aussi parler que non seulement il était victime, mais bourreau également. Mm-hmm. On peut pas se réclamer victime sans être bourreau. Donc il l'a rappelé, il lui a parlé. Il a parlé à son père, et son père lui a envoyé un message. Et là, ça ne m'étonne pas, mais quelque part c'est hallucinant. Il lui a dit, voilà. Chute, il ne faut pas que ça sorte de nous quatre. Donc, c'est-à-dire nous quatre, c'est-à-dire lui, sa belle-mère, sa sœur et lui. Donc, même pas moi qui ai été violée, vous voyez. Enfin, donc, il en a parlé également à sa tante, son autre tante, donc, qui est la mère de son cousin qui s'est fait violer, parce qu'elle aussi doit être au courant. Parce que moi, il est important qu'elle sache que son propre fils a été violé et également agresseur. Donc, il en a parlé, et elle, tout ce qu'elle a répondu, non, mais je rigole, mais franchement, c'est nerveux. Elle lui a répondu, voilà, mais le viol conjugal n'existe pas. Je veux dire, il est reconnu depuis 1992. Bon, d'accord, c'est jeune, mais je veux dire, nul n'est censé ignorer la loi. Enfin, moi, si vous voulez, c'est un témoignage, parce que, j'ai pris la bonne décision. C'est-à-dire que, au fond de moi, je sens que il y avait des petits signes depuis ces derniers mois, des petites choses qui me dérangeaient. Je pensais que c'était moi qui peut-être divaguais, je sais pas. Et en fait, je m'aperçois que non, j'avais tout bon, qu'en fait, je sentais des choses qui, comment vous dire, j'ai l'impression que c'est pas un hasard si ce viol est arrivé à ce moment-là. C'est-à-dire, je pense que mon fils, arrivant à une certaine, un certain degré d'autonomie,
oui.
J'étais peut-être libérée de ce besoin de me rattacher autour de mon couple, qui pour moi me semblait vraiment solide. Hein. Je veux dire, vous m'auriez dit il y a 6 mois de ça qu'il allait se passer ça. Enfin, pour moi, ça aurait été la fin du monde. Et là, maintenant, je me sens complètement, je dirais, insensible à ce qui m'arrive. C'est-à-dire que je n'ai plus de sentiments. Je fais ce qui, pour moi, me semble être juste. C'est-à-dire que, par exemple, pour le divorce, bon, j'ai demandé une pension compensatoire, mais je veux dire, je ne veux pas non plus saigner. Je voudrais qu'il prenne conscience, qu'il prenne la mesure de ce qu'il a fait et qu'il se fasse soigner, parce que je sais que parallèlement, il est suivi par un psychiatre, donc que j'ai joint, enfin, plus ou moins, et voilà, j'ai juste dit que je ne voulais pas rentrer dans son travail, mais que j'avais besoin de savoir s'il allait continuer à le suivre, parce que pour moi aussi, c'est important. Je me sens aussi... je ne veux pas porter plainte, mais je ne veux pas que ça arrive à d'autres femmes non plus, quoi.
Bien sûr,
donc,
bien sûr,
ouais. C'est compliqué. Ce psychiatre m'a assuré qu'il le suivrait. Il m'a remercié de mon respect, mais je ne ressens plus rien. Je fais des choses machinalement. Je fais des choses parce qu'elles doivent être faites, quoi. Comme si que j'étais un soldat. Vous voyez, c'est-à-dire que je vais au combat, et ça a toujours été ma philosophie, c'est-à-dire que je me suis toujours battue, j'ai toujours essayé d'être juste, droite dans mes bottes,
oui.
Toujours.
Oui.
Et sur cette affaire-là, si vous voulez, je veux pas non plus, je veux lui laisser la chance de pouvoir se reconstruire, mais aussi de pouvoir prendre ses responsabilités aussi dans le monde, et par rapport à nos enfants également. Hein, je veux pas. C'est vrai que je voulais témoigner par rapport à ce chemin de vie, parce que moi, en 3 mois, du coup, j'ai énormément évolué. En fait, je voudrais comment apporter une note positive aussi dans le sens où disons que ça m'a fait aussi découvrir cette épreuve, hein, des choses sur moi. C'est-à-dire que je me suis découverte déjà beaucoup plus forte que je l'imaginais. Déjà.
Oui.
Je pensais être une mère bof, j'ai envie de dire, mais
ah oui.
Et ouais, bizarrement, j'ai toujours. Bon, il faut dire que j'ai été malmenée parce que bon, je suis tombée sur voilà, c'était un peu ce qu'on appelle dans le jargon des psychacas, c'est-à-dire des psychanalystes, enfin d'obéissance psychanalytique qui disent qu'en fait, en gros, l'autisme est la faute de la mère, hein, plus ou moins, un peu Bettelheim. Donc j'ai été très malmenée de ce côté-là et je pensais pas peut-être protéger autant mes enfants. J'ai appris que finalement, je pensais que tout reposait sur les épaules de mon mari parce que c'est lui qui ramenait l'argent et voilà. Et en fait, je m'aperçois maintenant qu'il est perdu sans moi, qu'en fait, c'était moi qui faisais tout. Je m'aperçois qu'en fait, j'avais une idée faussée de qui j'étais en fait. Voilà.
De qui vous étiez en fait.
Exactement.
C'est-à-dire, vous étiez, vous ne vouliez pas regarder la. La vérité en face, en fait.
Oui, voilà, je pense que j'avais une idée où, en fait, voilà, j'ai fait des études d'art, mais bon, du côté de ma mère, mon père a toujours été respectueux, m'a toujours encouragé, mais ma mère, pour elle, c'était un métier de crève la faim, etc. Donc, pour moi, voilà, j'avais pas de valeur, on va dire, et j'ai commencé un peu à me réaliser, j'ai commencé à... En fait, là, au moment où j'ai commencé à prendre mon envol, mon mari a quelque part a voulu me... Je pense, ce qu'il a voulu en me violant, c'est casser cet envol.
Oui.
Voilà, c'est casser, me casser cette envie de m'envoler, en fait. De m'envoler. Et d'ailleurs, enfin, il le reconnaît, je ne suis pas sûre qu'il le reconnaisse vraiment, mais je ne suis pas sûre qu'il prenne vraiment l'ampleur, hein, de la situation. Mais je pense que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si, voilà, pendant 2 ans, bon, ça, il y avait une ambiance, bon, ça a commencé, c'était imperceptible. Et puis au fur et à mesure, voilà, ces derniers temps, par exemple, je me souviens que pour notre anniversaire au mois de juillet dernier, il avait réservé une chambre, un peu coquine, avec, une chambre coquine, quoi. Et au début, je trouvais le truc sympa, je trouvais l'idée sympa, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai bien compris qu'il voulait obtenir quelque chose de moi, vous voyez. Donc, il y avait quand même une volonté d'obtenir quelque chose de moi, malgré moi, quoi. Malgré moi. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour moi de me positionner aussi en tant que victime par rapport à lui. Parce que je le vois, alors, en plus, il est bon. Ouais, c'est un petit garçon, parce que là, vraiment, quand je le vois, quand on se voit ou quand on discute, voilà, maintenant, il est à son appartement depuis le 1er avril, mais voilà, il pleure ou il pleure au téléphone.
Lui,
il est resté à 9 ans. Il est resté à l'âge de 9 ans, en fait. Je m'en rends compte. Et,
c'est dingue. C'est dingue. Il ne réalise pas ce qu'il a fait, en fait, quoi.
Il me dit que oui, mais il y a des signes qui montrent que non, quoi. Je peux pas, non. Et puis j'en parle souvent avec ma belle-sœur au téléphone, et c'est vrai qu'elle me dit non. Et puis elle connaît très bien son frère. Elle connaît très bien son frère et elle dit, mais voilà, c'est un petit garçon. Voilà que, par exemple, elle est incapable, elle est en incapacité, hein, de l'avoir au téléphone. Il s'envoie des messages, mais elle ne peut pas l'avoir au téléphone. Hein. Et puis, il faut dire aussi que sa famille la nie complètement dans sa souffrance. Hein. Je veux dire, son père, il l'a presque engueulé en disant qu'il n'était pas au courant voilà, de la situation, il parle de la pluie du beau temps. Personne ne s'occupe dans sa famille de savoir ce qu'elle a pu vivre. C'est atroce, hein, pour elle. Hein. C'est vraiment... mais elle me dit que, oui, que en fait, on n'a pas l'impression qu'il prenne la mesure. En fait, il est resté, en fait, au stade où il m'a perdu, quoi. Voilà. Donc, je lui ai donné l'image que, bon, en ayant parlé à son père, visiblement, tous les voisins étaient au courant de cette situation, hein, puisque le type en question, qui est mort depuis, se vantait auprès des voisins de continuer à donner sa douche à sa petite fille de 12 ans. Vous vous rendez compte?
Oh là là. Oh là là.
Vous vous rendez compte?
Ouais.
Donc, tout le monde est au courant, personne n'a rien dit. Moi, ce qui me rend folle là-dedans, c'est l'attitude de mes beaux-parents. Finalement, ils valent pas mieux que le violeur.
Non,
pour
non,
moi,
bah,
c'est
c'est
des
mais
complices, quoi.
Il savait parfaitement bien ce qui se passait.
Tout à fait.
Hein,
tout à fait.
C'est ça qui est fou, quoi, en fait.
C'est que... ça que... C'est ça, moi je vous cache pas, j'ai discuté avec ma belle-sœur, bon voilà, et j'ai dit que je participais donc ce soir, hein, donc je pense qu'elle écoutera en podcast, mais
ouais.
Justement pour lui dire aussi, elle a besoin aussi d'entendre, enfin elle vit tellement dans une, je dirais, dans une sorte de secte depuis qu'elle est née, enfin... qu'avoir l'avis de d'autres personnes, je dirais un avis normal de personnes normales, ne peut que la rassurer. Vous voyez, enfin, moi, j'ai l'impression de vivre dans un cauchemar éveillé depuis 3 mois. Je vous avoue, hein.
Je comprends.
L'attitude de mes beaux-parents, enfin, l'attitude de ses tantes, enfin de sa tante surtout. Mais enfin, moi, je suis scandalisée et je me dis, c'est pas possible. Enfin. Bon, moi, je vois ça maintenant un peu avec du recul, parce que quelque part, je vais divorcer, c'est pas ma famille. Moi, je sais que mon père, il est scandalisé, ma sœur aussi. Enfin, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours pensé que la parole libérait. Et elle m'a libérée, et elle m'a aidée à plusieurs reprises. Quand j'étais enfant, j'avais des problèmes, j'avais beaucoup de toc, etc. J'étais quelqu'un de très angoissé. Hein.
Oui.
Et pourtant, c'est moi qui ai demandé à avoir une psychologue très jeune. J'ai toujours essayé de demander de l'aide là où il y en avait. Voilà. J'ai jamais hésité à parler. Pour moi, c'est libérateur, quoi. Et me dire que là, je suis obligée, quelque part, de créer un secret de famille pour mes enfants, parce que là, voilà, clairement, c'est pas possible. J'en ai un qui a 18 ans, l'autre qui a 11 ans. Je dis pas qu'il faut absolument toute leur vie que je vais mourir en gardant ce secret-là, mais je veux dire, plus tard, s'ils ont des questions ou s'il y a des choses qui les travaillent, bien sûr que, bon, je ne mettrai pas ça sous le tapis, mais là, pour l'instant, j'essaye surtout de préserver mes enfants, en fait. Et ça me pose problème, parce que moi, c'est vrai que je suis anti-secret de famille. Je suis quelqu'un pour la parole, quoi. Donc, je me retrouve vraiment dans une situation qui est très difficile.
Oui,
ouais,
ouais, j'entends que c'est très difficile. C'est très difficile parce que vous ne voulez pas complètement le mettre sous l'eau, en fait, cet homme. Parce que c'est un petit garçon,
exactement.
En fait. Là, maintenant, c'est petit garçon.
C'est un petit garçon.
Ouais.
Exactement. Je m'en rends compte, mais et bon, je veux pas le mettre sous l'eau, et je veux surtout qu'il assume son rôle de père. Je veux dire, avec les enfants, c'est un bon père. Je veux dire, par rapport à l'autisme de nos enfants, il a, bon, même s'il a pas fait de dossier, même si voilà, il a quand même été présent entre guillemets, mais en tout cas, il était présent. Il m'a pas aidé pour les dossiers, etc. Certes, mais quand même, il a été présent. Donc, je veux aussi lui donner sa chance, etc. Mais je me dis, comment on peut, pendant 25 ans, me cacher une telle chose, quoi. Je me sens, en fait, trahie dans mon libre arbitre.
Ouais, je comprends,
voilà.
Je comprends.
Je me sens, je lui ai dit, tu m'as volé mon libre arbitre. C'est-à-dire que, ok, bon, il y avait 90% de chance que je te quitte en sachant ça. Bon, d'accord. Mais peut-être que s'il y avait 10% où j'aurais pu rester, j'aurais pu voir certains signes, notamment quand il m'entourait, enfin quand il me serrait la gorge ou ce genre de choses, j'aurais pu prévenir, j'aurais pu dire stop, là tu vas trop loin. Mais là, j'ai pas pu, en fait, parce que pour moi, je pensais que c'était un jeu, vous voyez,
j'ai pas pris
la mesure, en fait.
C'est fou, hein,
que
vous n'ayez pas pris la mesure quand même, parce que c'est tout de même un.
Hein. Enfin,
c'est pas une attitude. Est-ce que c'était des jeux auxquels prêté avant? Enfin,
alors,
vous voyez.
Il y avait des jeux. Alors, faut savoir que moi, quand même, mon mari, c'était le premier. C'est-à-dire que c'était ma première relation sexuelle. Donc
oui.
Ça,
ah,
aussi,
d'accord. Okay.
Ça a beaucoup changé. Comment dire, la seule d'ailleurs. Donc ça veut dire que moi, si vous voulez, j'étais pas contre, on va dire, pourquoi pas des jeux ou explorer des choses, pas tout le temps, mais voilà, j'étais assez ouverte, mais je veux dire, je pensais pas à mal, enfin. Et puis il y avait toujours, bon, faut dire aussi dans les familles. Moi, je sais que j'ai été élevée un petit peu avec, voilà, ta grand-mère quand elle s'est mariée, c'était en gros, elle va passer à la casserole, vous voyez, où il faut un peu se forcer, ou genre de choses. C'est des choses qu'on entend, quoi. Et c'est vrai que récemment, j'ai entendu qu'il y avait un film qui ne passait pas dans ma région, bien dommage d'ailleurs, qui m'avait beaucoup intéressée d'ailleurs, qui s'appelle Sans frapper, qui est un film apparemment donc justement sur le viol et justement, enfin, apparemment beaucoup sur le viol conjugal, où il y a des d'ailleurs des violeurs qui témoignent, c'est assez rare. Et bon, je trouvais intéressant justement cette idée, en fait. Moi, je ne me faisais pas l'idée du violeur. Enfin, quand on parlait de viol, moi, je suis quelqu'un d'assez féministe, enfin, vraiment, voilà, d'égalitaire. Enfin, pour moi, j'ai vraiment des notions de justice, d'équité, ouais, ouais. Enfin, voilà, assez prononcées. J'ai toujours été pour... Et je me dis, mais comment ça peut me tomber dessus? Enfin, j'ai pas mesuré vraiment ce que ça pouvait être, en fait. J'ai pas pris la mesure, en fait, de ce que ça pouvait mettre en résonance chez lui, je pense. Et quand j'ai découvert, il y a 3 mois, là, ça m'est tombé dessus. Et là, je me suis dit, bon,
Vous vous êtes dit, là, il y a un truc qui.
Ah oui, en sept jours, pour moi, la situation, enfin, était réglée. Je veux dire, je partais, c'était sûr. Mais en attendant, c'est vrai que la première semaine, en tout cas, ou même bien les 2 premières semaines, parce que notre fils cadet était à la maison, je l'ai forcé à dormir dans le lit conjugal. Hein. Compte pas que mon fils s'en rende compte qu'il y avait un malaise. C'était vraiment... j'avais tellement peur de ça, j'avais tellement peur que... Voilà, c'est tellement l'horreur que... Après, par la suite, par exemple, quand il parlait de son collègue, notamment, qui essayait, qui l'avait agressé, etc. Bon, je lui ai dit, écoute... je peux pas te laisser repartir comme ça, tu vas dormir dans la chambre de notre fils aîné. Bien que ça me plaise pas, mais le temps que tu trouves un appartement, quoi. Franchement, bon, ça m'a coûté, je vous avoue, parce que quelque part, ben, ça reste quand même mon violeur, hein, même si c'était mon mari. Mais je me suis dit, je peux pas le laisser non plus comme ça à la merci de quelqu'un. Voilà, je pense, je suis persuadée qu'on a des sortes de, je sais pas, phéromones ou j'en sais rien, quand on est faible, enfin, comment dire, quand il y a une sorte de faiblesse qui émane de nous et qui peut attirer les personnes qui sont bien intentionnées comme les personnes.
Ça n'est pas une faiblesse. C'est, j'appellerais ça autrement, moi. J'appellerais ça une sorte de comment vous dire, de, pas de pitié, mais de gentillesse, en même temps que vous essayez toujours de comprendre les autres. Il y a quelque chose de... Il y a plusieurs sentiments dans ce que vous me décrivez, en fait.
Mais oui, c'est vrai. C'est, ouais.
Vous voyez ce que je veux dire, c'est votre premier amour, c'est le père de vos enfants. Il représente quelque chose pour vous que vous ne pouvez pas abattre comme ça. Sur un coup de colère, sur un coup de... Vous voyez, il a été loin. Il a été loin. Mais non, c'est ce que je vous dis. Il y a même... Enfin, c'est pas quelqu'un que vous pouvez balayer comme ça de votre vie.
Non, exactement. Mais il a été loin, ouais.
Puis là, mais vous savez quoi, Sylvie, on va marquer une petite pause, on va laisser passer l'info, et puis on se retrouve juste après pour continuer à en parler, d'accord?
Très bien.
À tout de suite.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Il est minuit passé de 8 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et vous pouvez continuer à nous appeler au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire, à nous écrire au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Sylvie qui nous raconte ce soir le viol au sein du couple, le viol que l'on qualifie de viol conjugal, qui arrive toujours dans des circonstances particulières et dont beaucoup de femmes ont du mal à parler. C'est ce pourquoi le témoignage de Sylvie ce soir est précieux et que je vous demande de l'écouter avec la plus grande concentration. Sylvie, donc vous en étiez où exactement? Vous me disiez que il pleurait, il continuait à jouer le petit garçon. Où est-ce que vous en êtes actuellement?
Actuellement, donc là, il a pris un appartement depuis le 1er avril.
Oui.
Bon, moi, j'ai eu le Covid hein, entre-temps, donc vraiment, j'ai pas de bol. Mais bon, donc là, on va dire que je suis en convalescence toute seule dans ma maison, parce qu'en fait, du coup... donc bon, moi, il faut savoir que je n'ai pas de travail, je suis auto-entrepreneuse, mais... bon, je vis pas du tout de ça. Enfin, c'était un apport, je dirais, supplémentaire, je dirais, au sein du foyer, quoi. Donc, j'ai dû raconter ce qui m'est arrivé aussi à mon père. Bon, mon père m'a beaucoup aidée, bon, notamment financièrement, puisque du coup, j'ai pu, grâce à un don, une avance sur héritage, je peux racheter ma maison.
Oui.
Donc ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Aussi pour les enfants, bien sûr. On s'est mis d'accord au niveau pour le divorce, hein, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai demandé une prestation compensatoire, une pension compensatoire, d'un montant, enfin qui ne prend pas en compte du tout tout ce qui est pénal, hein, donc c'est juste pour le divorce à l'amiable, puisque qui prend juste en compte on va dire ma situation, c'est-à-dire que j'ai quitté non seulement ma région pour lui et puis mon emploi, etc. quoi. Donc, là pour l'instant, donc je suis dans ma maison cette semaine toute seule. Et mais voilà, le problème c'est que là où je tique, si vous voulez, c'est que je connais très bien mes beaux-parents. Je connais très bien notamment mon beau-père. Et mon beau-père est très porté sur l'argent. Et il faut savoir que, bon, là, du coup, comme il a pas renoué les liens, parce qu'on ne peut pas dire ça, mais comme son fils l'a appelé, bon, même si c'était dans une circonstance malheureuse, à savoir le divorce plus le viol, et plus, bien sûr, en plus, son viol à lui, disons que j'ai très peur qu'il en profite en fait pour se rapprocher de lui, ce qui serait tout à fait son genre, et essayer de, on va dire, me faire des misères, même au niveau financier, ou laisser traîner, enfin essayer de me faire parce que je pense que c'est une famille qui est vraiment, quand je parle de secte, c'est vraiment sectaire. Enfin, je veux dire, il y a pas de parole, quoi. Je veux dire, moi, pendant 25 ans, j'ai rien su de ce qui s'était passé dans la famille. Mais en même temps, enfin, connaissant mes beaux-parents, ça ne m'étonne pas. Je veux dire, moi, j'ai connu mon mari. À l'époque, je voyais bien que sa belle-mère le traitait comme un chien. Enfin. Moi, j'ai toujours été détestée, on va dire, de mon beau-père et de ma belle-mère parce que j'ai toujours été inflexible. Voilà. Je suis quelqu'un, qui n'aime pas se faire marcher sur les pieds. J'ai accepté beaucoup de choses jusqu'à la naissance de mon fils aîné, où là, ça a été vraiment l'explosion. Mais j'ai toujours essayé quand même. Mais je suis pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. Et mon beau-père n'aime pas ça. Voilà, mon beau-père n'aime pas ça, et je il m'a jamais aimé. Je pense très sincèrement qu'il va essayer, de me faire la misère, parce que pour moi, de toute façon, pour lui, d'ailleurs, il l'a bien dit à ma belle-sœur, il en a parlé, et quand il a parlé du viol, hein, de mon viol, il a dit, en fait, oui, en parlant de son fils, il a pété un plomb.
Ma belle-sœur a dit non, non.
Il a pété un plomb, voilà, c'était ça. Alors ma belle-sœur lui a dit, non, il n'a pas pété un plomb, il l'a violé. C'est un viol. Et ma belle-sœur commence à se rendre compte de certaines choses, parce que là, je sens très, enfin, comment dire, très froide, très, très carrée. Elle parle un peu comme moi, un peu comme son, enfin, son sentiment, c'est-à-dire, on va dire, dépourvue d'affect, quoi, en fait. Et elle commence à réaliser ben, que aussi sa famille, enfin, même si je pense qu'elle avait une vague idée de comment ils étaient avant, hein, parce qu'il y a eu des choses très, très compliquées, et puis qui ont été très dures aussi avec elle, mais je me rends compte que c'est vraiment une famille, vraiment. Comment dire, où la parole ne peut pas du tout s'exprimer, quoi. Enfin, il n'y a pas eu à croire vraiment, j'en discutais avec sa tante au téléphone, à croire que mon beau-père n'a jamais aimé ses enfants. Enfin, je veux dire, quand même, il a osé dire quand même à son fils, chut, n'en parle pas, faut que ça reste entre nous quatre, quoi. Enfin, entre nous quatre, alors qu'on est cinq. Enfin, jusqu'à présent, je suis quand même la cinquième, enfin, cinquième roue du carrosse, en l'occurrence, mais... je veux dire, c'est comme si que j'existais pas déjà. Enfin, on a toutes les deux le même ressenti, ma belle-sœur et moi. C'est-à-dire, on n'existe pas. On est transparente. Et c'est vraiment ça.
Et votre mari était comment, lui ? Quel était son... Est-ce qu'il a hérité un peu de son père ?
Je pense qu'il a hérité de son père dans le sens où bah, on met sous le tapis et puis ça ne nous sautera jamais la figure. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que, comme je me suis révélée à un moment, même artistiquement, etc., enfin, voilà, je pense que ça lui a fait peur. Je pense qu'il y a eu une part aussi de jalousie, parce que, bon, du coup, je suis très amie donc, avec un homme. Donc, bon, bah, dans sa tête, ça a dû, même si je lui ai parlé, et voilà, enfin, à ce niveau-là, pour moi, je croyais que c'était réglé. Mais en fait, je pense qu'il y a eu une jalousie, une sorte de... Et je pense que c'est ressorti sous la forme du viol, en fait. C'est-à-dire vraiment une emprise, parce que, enfin, le viol, voilà. Quand je lui ai parlé du viol, pour lui, il me disait faire l'amour. Mais je lui ai dit, mais ça n'a rien à voir avec faire l'amour. On n'est pas, enfin, je veux dire, là, on est dans de l'emprise. Enfin, on est là pour, enfin, c'est même pas du sexe. C'est fait pour faire une chape de béton sur moi, quoi, en fait.
Ah, mais oui, voilà. C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà. Donc, disons que voilà, j'ai en face de moi et un petit garçon, ça c'est certain, mais en même temps un homme qui a quand même eu usé de stratagèmes pour arriver à ses fins. Et ça me gêne, quoi. Ça c'est quelque chose qui me gêne, quoi. C'est vrai que l'histoire du poppers dans le champagne, par exemple, ou
c'est très malsain, ça. C'est
ouais.
C'est terrible.
Mais je m'en suis aperçu. Ouais, je m'en suis aperçu, mais finalement que récemment. Je veux dire, j'avais pas pris la mesure moi non plus. Je pense qu'en fait, peut-être, j'étais pas prête non plus à voir. Que ça me saute à la figure, je pense. Comme je disais tout à l'heure, en effet, c'est arrivé un moment où là, voilà, mon fils aîné, voilà, il est, je dis pas qu'il est autonome, c'est pas vrai, mais je veux dire, bon, il sort, voilà, il a son appartement, etc., donc il a un début d'autonomie. Donc, c'est comme si que là, j'étais prête à voir qu'autre chose allait me tomber dessus, vous voyez, je sais pas comment...
Oui, non, mais je vois.
Comme si que mon cerveau, voilà, m'avait... C'est vrai que l'image que j'ai, ou quand je parle de mon viol, où j'ai l'impression que quelqu'un me prend derrière la tête et me dit « regarde-le ». C'est ça, en fait. C'est-à-dire que beaucoup de femmes disent qu'elles ont senti comme si qu'elles étaient, qu'elles se voyaient d'en haut, des choses comme ça. Moi, en fait, c'est comme si que je me voyais à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que, comme si que je me... Je sais pas comment vous dire, que je me divisais et que moi-même, je me disais « regarde-le, regarde jusqu'où il va aller ». Je regarde jusqu'où il va aller. Et j'ai très bien vu, je veux dire, jusqu'à la fin, je me suis dit, il va quand même avoir un regard sur moi, il va quand même faire attention à moi, mais il n'y a rien eu du tout, quoi. Et je pense que ça m'a complètement, choquée, en fait.
Bien sûr, bien sûr, je comprends.
Mais disons que, bon, je pense que j'ai une nature, une faculté de pour survivre assez développée,
je dois dire.
Je m'en rends compte, puisque bon, j'aurais pu vraiment m'effondrer avec tout ce qui s'est passé, et pourtant bon, j'arrive quand même à essayer de trouver quelque chose de positif, et ça je me dis j'aurais jamais cru ça, je me dis c'est en face des épreuves qu'on voit vraiment qui on est, Et en même temps, j'essaie de voir le côté positif. Enfin, positif. Comment dire ? Je me dis, en même temps, voilà, je me suis aussi découverte combative. Voilà, en étant une mère suffisamment bonne, enfin, je ne veux pas citer de mauvais, voilà, mais en étant quelqu'un d'assez droite dans ses bottes. Enfin, j'ai fait, voilà, j'ai fait ce qui me... Enfin, je fais en tout cas ce qui me semble être juste.
Mmh.
Voilà. Après, c'est vrai que je me rends compte que, bon, je vais peut-être en sortir indemne. Je sais que mon psy m'a dit que, bon, voilà, si j'arrivais à, voilà, à me séparer, à, voilà, à me reconstruire, etc., enfin, pour lui, voilà, pour lui, il m'a dit, vous êtes indéboulonnable. Il m'a dit,
ah oui, lui, bon, bah, écoutez, c'est bien, remarquez.
Il m'a dit, parce que je lui ai dit, vous rendez compte, tout s'effondre autour de moi. Il me fait, ouais. Il me fait, mais vous êtes bien accroché. Bon, alors, bon, je le prends bien, on va dire. Mais c'est vrai que je m'étonne moi-même parce que je me rends compte que je fais preuve quand même d'un certain sang-froid, notamment avec les enfants, où j'arrive quand même à garder une posture voilà, rassurante, bienveillante. Droite dans mes bottes, vraiment. Et j'aurais jamais cru ça de moi, en fait. Jamais.
Vous n'auriez jamais cru ça de vous parce que personne ne vous avait mis à l'épreuve comme ça ? Ou parce que vous aviez traversé des choses dures avec vos enfants et que vous aviez fait preuve tout de même d'une sacrée énergie ?
Oui, j'avais fait preuve d'une énergie, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que j'avais toujours mis de côté, pour moi, ma relation, ma vie maritale était parfaite. Enfin, pour moi, je pense que je me persuadais qu'elle était parfaite. Pour moi, je me disais, au moins, il y a ça qui tient. Au moins, il y a ça qui tient. Alors qu'en fait, finalement, celle qui tenait, c'était juste moi, en fait.
Ben oui, c'était vous,
juste moi. Ouais. Et c'est vrai que, bon, comme j'ai dit à mon ex-mari, j'ai dit, moi, j'ai jamais pu me taire. Moi, j'ai jamais su me taire. Et je sais que même, il y avait une amie, quand j'étais plus jeune, qui m'avait confié qu'elle s'était fait agresser sexuellement par son futur beau-frère. Hein. Donc, moi, j'en avais parlé tout de suite à ma mère, qui m'avait même engueulée, d'ailleurs, en disant que c'était faux, etc. Mais j'avais insisté, quand même. Donc, je suis vraiment pour la parole. Hein. J'ai vraiment... Et j'aurais jamais pensé qu'il puisse m'arriver un truc pareil. C'était... qu'il y ait une chose tellement, tellement, tellement énorme,
énorme
qui puisse me cacher pendant 25 ans. 25 ans.
C'est fou. En 25 ans, il n'a jamais eu un comportement qui ait pu vous laisser penser qu'il était déviant. Parce qu'il est déviant, vous êtes d'accord ?
Oui, je pense qu'il est déviant, ouais. Mais disons que on essayait, bon, des fois des jeux, des choses comme ça. Mais je veux dire, pour moi, ça restait du jeu. Disons que depuis, 6 mois, bien un an, j'ai senti une pression plus forte avec des exigences plus fortes, de la brutalité.
De la brutalité.
De la brutalité.
Donc vous avez peut-être remis ça sur le dos, on va dire du fantasme de. En fait, vous vous êtes dit, bon, ça fait longtemps qu'on est ensemble, il essaie de trouver des nouveaux jeux, peut-être.
Oui, c'est ça.
Oui.
Et moi, je me suis dit, bon, enfin, j'étais pas opposée, mais ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et le mot viol revenait dans sa mouche. Et je lui avais dit, je me souviens, après mon hospitalisation, je lui avais dit, je ne veux plus que tu me touches, que tu me prennes la gorge. Et je lui ai dit aussi, tu parles beaucoup de viol. Tu parles beaucoup de viol. Et il me dit, mais non, enfin, de quoi tu parles ? Et toujours, il m'a jamais brutalisé. Je veux dire, enfin, brutalisé dans le sens où, c'est sans frapper. C'est comme le film, un peu. C'est-à-dire qu'il m'a jamais fait croire que j'étais rien du tout. Enfin, disons qu'il y a une... Je pense qu'il y a une... Il y a un fossé entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est-à-dire que, par exemple, il m'a sorti récemment « Sache que je ne te ferai pas la misère si tu retrouves quelqu'un dans le futur ». Bon, par exemple, ça, c'est une phrase qu'on ne dit pas, parce qu'en principe, bien sûr, tu ne feras pas la misère.
Il faut faire attention quand même.
Bah oui.
Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça veut dire qu'il y a pensé en fait.
voilà. Bah vous mettez des mots sur ce que j'essayais de dire. Exactement.
Bah oui. C'est ça qui est assez flippant en fait.
Et même, je sens qu'il y a de la jalousie parce que l'autre jour, il était en transit, on va dire, pour ramener des affaires. Et je me suis dit, je suis chez moi, je vais inviter mon ami. On travaille sur un projet de label inclusif pour des personnes sourdes, etc. Donc, c'est un beau projet en plus. On voulait qu'il soit président de l'association. Bon, maintenant, c'est mort, mais voilà. Bon, donc, mon ami était là avec son ordinateur et... À un moment, je l'avais pas vu, il avait oublié sa pochette. Et donc, mon mari donc lui dit en passant. Et puis le soir, il me dit, voilà, quand j'ai vu sa pochette, le premier sentiment que j'ai eu, en fait, c'était de mettre un coup de savate dedans. Alors là, je lui dis, mais attends, c'est quoi ton problème? Enfin, je comprends pas. Ben, il m'a dit, voilà, j'étais jaloux, donc la première chose que j'ai pensé en voyant sa sacoche, c'était de mettre un coup de pied dedans. Comme si que, enfin, toutes ces petites choses me font dire que il n'a pas pris la mesure.
Il n'a pas pris du tout la mesure du truc, non, pas du tout.
J'ai pas l'impression, voilà. Et je voulais votre avis aussi, parce que je me dis peut-être que moi je suis trop proche, et je pense que je resterais trop longtemps après le viol, on va dire collée à lui, puisqu'on vivait ensemble. Et peut-être que j'ai minimisé des choses et que je vois plus les choses très clairement. Et je voulais avoir votre avis là-dessus, en fait.
Moi, je pense qu'il faut que vous vous méfiez quand même des réactions de cet homme.
D'accord.
Oui, parce que je suis obligé de vous dire ça. Hein. Je suis désolé,
je suis obligé de vous dire
qu'un homme qui vous serre le cou, qui vous viole. Et qui ensuite remet ça avec des allusions sexuelles, n'a pas pris la mesure des choses. Et lorsqu'il vous dit « je ne t'embêterai pas, même si tu retrouves quelqu'un
».
Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu quelqu'un qui ne percute pas sur le fait qu'il a déconné à plein tube.
Bah oui, c'est ce que me dit mon ami, voilà, il me dit, mais Sylvie, mais écoute, il m'a dit, écoute, je sentais, il sentait pas qu'il allait avoir viol, mais il dit, je sentais qu'il y avait une grosse pression quand je venais, il me disait, je sentais qu'il n'était pas content que je sois là. Et moi, plusieurs fois, j'ai dit à mon mari, écoute, si ça te gêne, je lui disais, je prévenais quand il venait, je lui disais, si ça te gêne, on se voit pas, enfin... J'essayais de le ménager, quoi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose dans l'air. Et lui, il m'a dit, depuis longtemps, c'est vrai qu'il a fait une remarque. Je me souviens quand il avait pris cette chambre au mois de juillet, là, pour nos anniversaires. Il y avait un truc, et donc mon ami part. Et au moment de partir, il y avait sa langue avait fourché, il y avait un truc. Et mon mari lui sort, il lui dit quelque chose d'assez vulgaire par rapport à moi, mais t'inquiète pas, ça me dérangera pas de la prendre, ou quelque chose comme ça. Et moi, je l'avais pris mal dans le sens où je lui ai dit d'arrêter parce que je me sentais gênée vis-à-vis de mon ami, mais je l'avais pas. Enfin, j'avais pas pris mal vis-à-vis de moi. Je sais pas comment vous dire. Alors que lui, il avait tout de suite vu, il m'avait dit à ce moment-là, c'est un gros porc. Il a dit, j'ai pensé tout de suite que c'était un gros porc. Et il m'a dit, je ne t'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas, je voulais pas te flinguer ton mariage ou quoi que ce soit. Mais il m'a dit, c'est vrai qu'il y a des choses qui me gênaient. Voilà. Et c'est vrai qu'en voyant le film, j'ai envie de dire, en transposant les choses, c'est clair que les choses étaient évidentes. Mais moi, je ne les ai pas vues, en fait. Je n'ai pas vu que tout ce que ça faisait ressurgir chez lui. Et d'ailleurs, j'en ai parlé, je lui ai dit, mais en fait, en gros, ta vie avec moi, je n'étais pas censée le savoir jusqu'à la fin de ma vie, je lui ai dit. En fait, ce que tu n'avais pas prévu, c'était de réagir comme ça par rapport à ta jalousie, par rapport à mon ami. Et là, il m'a dit, oui. Il l'a reconnu. Il a dit oui, j'ai été jaloux. Il me dit je ne pensais pas. On est arrivé là. Donc je lui dis donc en gros t'as mis, t'as fait le choix parce que moi je sais pas quand même. Je veux dire bon il a quand même agressé sa sœur à 14-15 ans. comme disait mon ami, il disait, mais attends, moi, je sais pas, vers 18-20 ans, on se remet en question, on se pose des questions sur soi-même, c'est le moment où on se remet en cause, quand même, quoi.
Oui.
Et comment ça se fait qu'il ait pas fait ce chemin? Comment ça se fait qu'il ait refusé de faire ce chemin? Et ça va même plus loin, parce que je vais vous dire, en fait, ma belle-sœur, quand elle s'est mariée, elle n'a pas pris, maintenant je le sais, et pour cause, mon mari comme témoin. Et moi, à l'époque, je pensais que c'était ses parents qui lui avaient monté la tête, en fait, contre nous. Mais en fait, pas du tout. En fait, elle m'a dit, mais en fait, tu comprends pourquoi j'ai pas pris mon frère en tant que témoin? Et elle me fait, par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que lui n'est pas compris. C'est-à-dire que mon mari, il n'a pas compris, mais c'était à cause de ça. Je veux dire, il l'a su quand je lui ai dit que très récemment, il y a un mois et demi, quand je lui ai dit, voilà, ta sœur, tu sais pourquoi ta sœur, en fait, t'as pas pris en tant que témoin à son mariage, c'est tout bonnement parce que tu l'as agressé, écoute. Voilà. Donc, ça me fait peur à ce niveau-là.
Oui, oui, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement coup, que ça vous fasse peur. Je comprends parfaitement.
Je sais pas comment réagir, parce que voilà, il y a un côté, je te ferai pas de misère, mais en même temps, j'y ai pensé, parce que je t'ai
dit. Oui, j'y ai pensé quand même.
Voilà, donc tout est sur le même registre. Voilà, l'autre jour, il me dit, j'avais un jean, je sais plus, j'avais un lacet dans le dos, j'étais chez moi, quoi, et puis j'avais le Covid en plus. Et il me fait, je voulais te dire que ton jean, lacet comme il est, ça pourrait mettre en colère les féministes ou je sais plus comment. Je dis, mais tu te rends compte de ce que tu me dis?
Il est secoué. Il est secoué.
Ouais, ben ouais. Et c'est du coup, moi, ça, je le sens pas fiable, quoi.
Non, mais
je
ne
sens pas fiable.
Vous pouvez ne pas le sentir fiable. Il est tordu.
Je me dis, d'un côté, il y a sûrement ce qui n'a pas rangé, ce qui s'est passé pendant son enfance, mais en même temps, il n'y a pas cette remise en question qu'on doit avoir en début d'âge adulte, et ça me pose problème.
Oui.
Parce que moi, je suis quelqu'un qui me remet en question. Et je lui ai dit, même le nombre de fois on a vu des reportages où, sur le viol, sur l'inceste, peut-être même de vos émissions, vous voyez. Je veux dire, on regardait ensemble. Je lui dis toutes ces fois-là, toutes ces fois-là,
il
tu ne me dis pas que t'as
tout
pas
ça,
pensé à ça.
Il regardait tout ça.
Ouais, ouais.
Et il a jamais commenté ou.
Non. Et la seule réponse que j'ai eue de lui, c'est j'ai eu honte. Voilà, j'ai eu honte. C'est la seule réponse que je peux avoir de lui.
Ouais, mais bon.
Il y a rien d'autre qui sort, quoi. Alors, à part que ces derniers temps, voilà, à chaque fois que je téléphone, c'est « mais je t'aime ». Donc là, je lui ai dit « écoute, arrête ». Je lui ai dit « ça t'appartient ». C'est pas partagé, parce que là, j'ai plus du tout de sentiment amoureux. Là, vraiment, tout est parti. Je lui ai dit « arrête, c'est peut-être ce que tu ressens, mais pour moi, c'est pas de l'amour. Je ne veux pas entendre ça, c'est insupportable
non,
pour moi d'entendre. »
Je comprends. Je comprends que ce soit insupportable pour vous, ça c'est clair. Non, mais il se rend pas compte, C'est un enfant. Hein.
C'est ça, et je me dis, c'est un enfant, mais 48 ans. Et ça me fait peur, quoi, parce que je me dis, on a quand même deux enfants ensemble. Le petit, il a 11 ans. Bon, même si c'est un bon papa, je dis pas, c'est vrai. Hein. Je veux dire, quand j'étais hospitalisée, il s'en est occupé, il a pris des jours. Bon. Mais c'est parce que je lui demandais. C'était toujours parce que je lui demandais, en fait. C'était jamais de sa propre initiative, en fait.
Oui.
Donc là, disons que, quelque part, je suis protégée dans le sens où, pour vous dire à quel point c'était un enfant, je veux dire, tout de suite après ce qui s'est passé, mon coup, il a su que je voulais divorcer, etc., il a écrit une lettre à son psy, à son psy,
oui.
Et il m'a écrit une lettre. Il m'a écrit une lettre dans laquelle il reconnaît, donc très formelle, hein. Voilà, j'ai sous-signé, ayant violé ma femme dans la nuit de tel truc.
Ah ouais, ça vous l'avez.
Ah ouais, ça je l'ai, donc ça par contre, j'ai voulu la déchirer dans l'instant, et puis finalement, il y a une petite lumière qui... un petit truc rouge qui s'est allumé qui dit non Sylvie, non tu gardes bien la lettre et donne-la à quelqu'un de sûr. Donc j'ai donné à ma meilleure amie.
Oui.
Et j'en ai fait des photocopies parce que mon père est complètement flippé. Il m'a dit par contre tu fais un dossier avec toutes les captures d'écran de toutes tes conversations, tu me fais tout en format papier et je veux tout imprimer, quoi. Et c'est vrai que je vous avoue qu'à un moment, il y a même eu un épisode assez épique où quand je venais juste d'apprendre qu'il avait touché à sa sœur et tout, je reviens de chez une amie avec mon fils, donc de 11 ans, et j'étais complètement paniquée. Hein. Paniquée, à l'intérieur, je bouillais.
Oui.
Donc j'étais en voie au drive, à un moment où, je ne sais plus, Burger King, un truc comme ça. Et je me gourre, en fait, au lieu de sortir à droite, je sors à gauche, enfin, je ne sais plus, et je tombe nez à nez avec une camionnette. Dans l'énervement, je sais que je ne... voilà, j'ai fait un geste malencontreux. Et là, d'un seul coup, un type sort... Et il me placarde son brassard police.
Oh, aïe, aïe, aïe.
Alors là, panique à bord. J'ai fermé tout de suite la porte. J'ai dit, mon fils. Et donc, je pleurais. Donc, là, il m'a engueulé. Je lui ai dit, c'est pas pour ça que je pleure. J'étais en panique par rapport à ça. Et je touche, on va dire, ma poche et je sens mon portable. Et là, je dis, écoutez, peut-être que c'est un signe. Il faut que je vous fasse lire des messages parce que j'en croyais même plus, quoi. Enfin, je croyais pas... ce que je venais d'entendre, ni ce que je voyais. Et je lui ai fait lire un SMS dans lequel j'accuse mon mari d'accuser, d'avoir à toucher sa sœur, et dans lequel il y a un moment où, en effet, c'est vrai. Et là, je vois le policier qui devient blanc, quoi, et puis qui me dit, mais madame, il faut porter plainte. Donc j'ai dit, non, je ne peux pas, j'ai deux enfants autistes, enfin bref, bon, voilà. Mm-hmm. Il m'a laissé repartir. Mais tout ça pour dire que... Voilà, j'ai besoin... Moi, il m'a fallu un temps, après le viol, où j'ai appelé des numéros verts pour qu'on me dise ce que c'était. J'avais besoin de l'entendre, en fait. C'était pour moi important qu'on me dise, madame, vous avez été violée. Et oui, madame, ce n'est pas pour contentement normal et votre mari est déviant. C'est des choses que j'ai besoin d'entendre.
Oui,
en fait.
Oui, je comprends. Parce que vous avez du mal à accepter... ce qui s'est passé, enfin, accepter. Vous avez du mal à vous dire j'ai vécu ça,
c'est ça,
alors que vous réalisez, pourtant, puisque vous nous le racontez très bien ce soir, mais vous avez du mal à réaliser qu'il est aussi loin que ça, en fait.
Oui,
parce qu'il est
ça.
Parti bien loin, lui. Hein.
Ah
bien
oui,
loin.
C'est ça. C'est ça. Et je suis plus... et c'est vrai que je me dis, mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive quand même à garder le cap mais c'est vrai que je suis complètement désarçonnée, quoi. Je suis désarçonnée, je le vois encore dans ma véranda s'écroulant quasiment par terre en pleurant comme un petit garçon en disant bah oui, j'ai été violée. Et je me dis
mais il est en train de vous faire le coup, donc il a été violé, donc lui il a répété tout ça. En fait, c'est exactement ce qu'il vous a dit.
C'est ça. Donc c'est très, c'est vrai que c'est compliqué parce que on a vécu quand même 25 ans ensemble. On a vécu des moments difficiles, mais je me rends compte que je peux plus lui faire confiance. Je me rends compte que là vraiment. Tout s'écroule, quoi. Tout s'écroule. C'est, tout ce que j'avais bâti, pour moi, c'était sur des choses saines. C'était dur, voilà.
Bien sûr.
Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est complètement. Puis plus, j'ai l'impression d'être le premier domino, en fait. Voilà, c'est ça.
Le premier quoi ?
Le premier domino.
Oui, c'est ça, oui.
C'est-à-dire que c'est la seule qui a réussi à parler. Qui font parler les autres, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mmh. Et là, mon beau-père, en fait, il est en train d'essayer d'arrêter les dominos tant qu'il peut, parce qu'il a trop, trop peur que ça se sache, ou je ne sais pas ce qu'ils veulent cacher, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal dans leur comportement. Je veux dire, quand on vient d'apprendre que ces enfants de 4 et 9 ans ont été violés par un voisin qu'on savait louche,
ouais, ouais.
Qui plus est, que tout le quartier le savait, on n'agit pas en disant « chut ». Enfin, c'est pas possible. Moi, je peux pas comprendre un comportement de parents comme ça. Je suis mère moi-même, je veux dire, j'en ai parlé à ma belle-sœur qui elle-même est mère, je lui ai dit « mais tu te rends compte ?» Je veux dire, il faut aussi que toi, tu puisses briser aussi le silence pour ta fille aussi. Pour pas non plus, je dis pas qu'on répète les choses, mais je dis que des fois dans les familles, il peut y avoir des climats un peu de secrets de famille très lourds, très pesants, dont les enfants peuvent capter très facilement. en fait. Et ça, c'est mauvais aussi, quoi. Et malheureusement, bon, là, je suis obligée de créer un secret de famille quelque part. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Enfin, j'ai pas trop le choix, si, j'ai toujours le choix. Mais je veux dire, voilà, je voudrais lui laisser sa chance sans... en m'écartant du jeu, parce que je sens que là, si je rentre trop en fait dans ces histoires de famille, moi je m'en sortirai pas indemne, quoi. J'ai besoin de me protéger, en fait.
Oui, il faut que vous vous protégiez, il faut que vous éloigniez cet homme de vous. Il faut tout de même déposer une main courante. Mmh. Bon, je pense qu'il faut que vous vous protégiez, en tout cas qu'il y ait une trace de tout ça. Et que vous vous protégiez, qu'il n'ait plus le droit de vous approcher, en tout cas lui poser des limites. Parce qu'il vous croise aujourd'hui encore, il vient
Il trouve des prétextes pour passer, quoi. Alors il n'insiste pas quand je lui dis, par exemple, je peux passer lundi pour, je ne sais pas moi, c'était quoi la dernière fois, chercher une capuche, je ne sais plus quoi. Je lui avais dit, lundi je ne peux pas, par exemple. Mais donc il va pas insister, mais il va quand même essayer de revenir, quoi. Il va quand même essayer de me dire oui, je dois laisser, ou m'appeler pour les gosses, ou m'envoyer des photos du chat, parce que on a pris chacun un chat, donc comment le chat évolue dans son appartement, ou pour n'importe quel prétexte, en fait. Ça, c'est déjà présent, je dirais, en début de notre relation. Hein, parce que ça, je me souviens que pendant un mois, on avait eu une histoire pendant un mois, je l'avais largué quand il avait voulu me présenter à ses parents. Je trouvais ça trop vite, et puis j'étais jeune.
Oui.
Et après j'ai compris pourquoi. J'avais bien fait, mais... après, on s'est revus, etc. Et pendant un an, il m'avait quand même... harcelé, c'est un bien grand mot, mais quand même, il était venu plusieurs fois à l'improviste, il me laissait des messages sur mon répondeur, il ne me lâchait pas quand même. Hein. Donc, je ne veux pas non plus que ça se reproduise comme dans le passé, en fait.
C'est un acharné, hein, celui-là, quand même. Hein.
Je ne sais pas, il prend ça comme de l'amour, mais je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il y a confusion, en fait. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail qu'il doit faire avec son psy, quoi. Parce qu'il y a vraiment... moi, je me dis, mais ça fait 7 ans, 6-7 ans qu'il voit son psy, hein. Je lui dis, mais en 6-7 ans, t'as pas une seule fois parlé de ta sœur ? Ou ta jalousie, ou des choses que tu pouvais ressentir ?
Et qu'est-ce qu'il vous dit ?
Je comprends pas. Comment ?
Et qu'est-ce qu'il vous dit ?
Et il me dit, non, j'en ai pas parlé, car j'en avais trop honte. On revient toujours à la honte. Toujours. Il me dit, j'ai mis sous le tapis parce que j'avais trop honte. Et mais ça n'a jamais rien arrangé. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut quand même se bouger. Il faut quand même... je lui ai dit, j'ai pris l'exemple, j'ai l'impression d'être un soldat, mais je lui ai dit, j'ai pris l'exemple un peu d'un soldat... on va dire au Vietnam. Je lui dis, t'as balancé ta grenade sur la tronche de ton père en disant, j'ai été violée, etc. Sa sœur a été violée. Tout ça, tu l'as balancé. C'est comme si tu avais balancé une grenade et que là, t'attendais. Je fais, là, soit tu cours, soit tu meurs. Chez moi, je suis partie de la jungle bien longtemps. Moi, j'ai déjà tracé ma route. J'ai fait, toi, t'es bien en arrière. Alors, disons que, on va dire qu'à la machette, j'ai tracé un chemin, tu peux le suivre si tu veux, mais moi, je ne viendrai pas en arrière te rechercher, quoi.
Et qu'est-ce qu'il vous dit quand vous lui parlez comme ça, il vous dit quoi ?
Il me dit, je commence juste à comprendre que je t'ai perdu. Voilà. Voilà. Donc, il me dit, je viens juste de réaliser que je t'ai perdu, et puis il se met à pleurer. Donc, moi, j'en suis pas là, quoi. Moi, j'en suis plus là, enfin... Moi, j'ai dépassé ça, j'ai l'impression... Vous savez, quand les 7 premiers jours, là, quand j'ai pris ma décision, au bout de 7 jours de le quitter, etc., pour moi, c'était comme si j'étais dans 24 heures chrono, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire.
Je vois.
C'est-à-dire, tous les jours, il y avait un truc qui me tombait sur le coin de la gueule, comme c'était ça.
Oh, ah, ma pauvre. Ouais, vous avez dû...
Tous les jours.
Vous avez enchaîné les mauvaises nouvelles.
Ah ouais, et puis, mais
et
tous
puis les
jours...
Les nouvelles cauchemardesques.
Ah ouais, et puis ça s'est fait en plusieurs fois. Enfin, donc là, je me dis, qu'est-ce qui va me tomber dessus?
Vous voyez,
est-ce que son père...
je vais vous lire, parce qu'il y a beaucoup de messages qui tombent pour vous, mais je cite un Marie, Jérôme, Irène, Samantha, Anne, Florian. Il y a Annie qui nous a envoyé un dernier message qui nous dit « Je trouve au contraire que vous faites preuve de force et de discernement, mais vous ménagez tout le monde. »
C'est vrai.
Et je trouve que elle dit vrai, Annie. Elle livre une très concentrée, mais une très bonne analyse de ce qui vous arrive. C'est-à-dire que je pense que vous avez porté tout le monde un peu à bout de bras pendant un bon bout de temps.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a les deux enfants hein, qui ont pris beaucoup d'énergie. Parce que dans un couple, un enfant différent ou deux enfants différents, en tout cas, même un enfant différent prend beaucoup de place. Beaucoup.
Ah oui, oui.
Et on ne sait pas comment lui il a géré. Mais visiblement, très mal. Parce qu'il pour qu'il arrive à vous faire ça, c'est que lui, il manque totalement de discernement. Et qu'il a un problème. Mais vous vous rendez compte, vous auriez dû le larguer le jour où il vous a mis du poppers ou je sais pas quoi. C'était du poppers ou c'était autre chose?
Alors, ma belle-sœur me dit, parce qu'il y a des fois où... Alors, ce coup-ci, je suis sûre que c'était du poppers parce que, en fait, ça avait un goût bizarre et il m'a montré la fiole. Donc, mais il y a des fois où je sais, par exemple, que j'ai fait comme des... des trous noirs, quoi. Par exemple, le matin...
Bon
ouais. Et alors, des fois, bon, alors c'est vrai que le week-end, on prenait un apéro comme ça. Hein, je dis pas, on prenait pas non plus 15 dans la figure. Mm-hmm. Mais le matin, des fois, je me disais, ah, tiens, je devais être pompette parce que hier soir, je me souviens pas ce que j'ai fait. Ça m'arrivait.
Oh là là. Enfin, ouais. Pompette, ouais. Quand on se souvient pas le lendemain dit, de ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une cuite mémorable.
Bah ouais, et là, c'était pas le cas, quoi.
Bah alors, il avait mis quelque chose dans votre verre, c'est tout.
Donc, ma belle-sœur m'a dit clairement, et elle m'a dit quelque chose de très vrai, elle m'a dit, en parlant de ses parents et aussi de son frère, elle m'a dit, c'est pas qu'ils sont... C'est le problème, enfin, ils sont inconscients, mais le pire, ce n'est pas qu'ils soient inconscients, le pire, c'est qu'ils sont inconséquents. C'est le terme. Inconséquents.
Oui.
Il n'y a pas d'autre mot. C'est vrai que moi, ce que disait Annie est très vrai, et c'est ce que je me rends compte, en fait, j'ai porté pendant plein d'années à bout de bras, bon, c'est vrai que notre fils aîné est quand même gratiné, enfin, je veux dire, c'est quand même, on a eu des crises de violence, il est quand même du corpulence, vraiment, voilà, il y a eu des moments où il m'a tordu le bras, il a tordu le doigt de sa famille d'accueil, enfin, c'était une horreur, hein.
Oui.
On a vécu des moments très sombres, hein. Je veux dire, au point où où on n'avait pas, où les familles d'accueil les avaient laissés du jour au lendemain quasiment sur le bord de la route. Hein. C'était des moments très, très sombres. Et j'ai toujours essayé de trouver une solution, mais je pensais que c'était notre couple, en fait. Mais en fait, je me rends compte que c'était moi, en fait. C'est là où je me dis, ah ouais, mais en fait, moi qui croyais avoir un rock, finalement, c'est moi qui portais qui portais tout le monde à bout de bras, finalement. C'est ça.
Ben
y compris
oui.
Lui.
Ben oui,
y compris
oui,
lui.
Oui.
Mmh. Ouais.
Oui, complètement.
Ouais, ouais. Et je ne me rendais pas compte.
Et non, vous ne vous rendiez pas compte. Et bien sûr qu'il y a un problème à ce niveau-là. Bien sûr.
Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance, je dirais, dans mon malheur, dans le sens où moi, j'en ai parlé très vite à mon ami, là. Et comme c'est un homme... Du coup, j'ai pu aussi avoir une vision d'un homme lambda. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, bah, comme c'était le seul amour de ma vie, je dirais, bah, tous les hommes sont comme ça. J'aurais pu me dire ça après mon viol. Or, j'ai eu quand même, j'ai eu la vie d'un homme qui me disait, non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal, voilà, d'abuser de quelqu'un. Non, moi, je ne l'ai jamais fait avec ma compagne. Non, ce n'est pas normal d'agir ainsi. Parce que c'est vrai que j'en étais, je me souviens au deuxième jour, où j'avais écrit à une de mes amies, est-ce que ton mari, des fois, te force un peu, comme ça?
Ah ouais, mais elle vous avait répondu quoi?
Elle m'avait répondu, attends, qu'est-ce qu'on entend par forcer? Est-ce que c'est un jeu ou est-ce que c'est forcé? Enfin,
forcé,
de façon...
Forcé,
elle me fait, voilà. Dans ce cas-là, c'est un viol, elle m'avait dit. Ouais.
Ah oui. Bien sûr que c'est un viol. Vous avez vécu un viol. Vous avez vécu un viol. Vous avez vécu. Oui, un viol. Un viol. C'est...
Et c'est vrai que. Alors, disons que j'ai cette. C'est vrai que j'ai cette faculté, bon, de fait, d'avoir fait peut-être des études artistiques et d'avoir. D'avoir des capacités techniques, etc. J'arrive aussi à. Via tout ça, à exorciser un petit peu, ça me permet de voir les choses différemment, de me les détacher, en fait, vous voyez. Et ça m'aide beaucoup, également. Ça m'aide beaucoup à avancer. Et ça, c'est vrai que c'est une grande chance aussi. C'est une grande chance. Mais je dirais, heureusement que j'ai cette faculté de parler, quoi. Parce que c'est vrai que la situation me paraissait tellement aberrante. Et puis, c'est vrai que j'en parle depuis quand même pas mal de semaines maintenant avec ma belle-sœur. Et je lui disais, c'est pas possible. Il faut qu'on ait des idées, enfin, des avis extérieurs pour te prouver que, enfin, la situation n'est pas normale, quoi. Enfin, n'est pas normale. Je veux dire, même dans sa famille, je veux dire, prendre des nouvelles, voilà comment ça va, alors que son père sait très bien la veille qu'elle lui a raconté par A plus B comment elle s'est fait violer. Enfin, agressée, violée, enfin... Je veux dire, c'est pas normal une attitude pareille, quoi.
Ah ben non, c'est pas normal. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et le problème, je vais vous dire, c'est que s'il a pas percuté qu'il avait un gros problème, lui, il va falloir qu'il percute.
Oui. Ah oui. C'est sûr, parce que bon, moi, je veux pas non plus, je lui ai dit, je veux pas être ta mère, quoi. Je ne veux pas être ta mère. Là, je te vois, tu es revenu, le petit garçon de 9 ans que tu étais à l'époque, enfin, quand tu t'es fait violer. Mais moi, je ne veux plus tout, enfin, je veux pas tout ça. Moi, je refuse de porter ça, quoi. C'est hors de question. Ça, c'est quelque chose qui t'appartient. Voilà, alors là, il est en boucle sur je suis un salaud, je suis un salaud, je suis un salaud. Mais je lui dis, au lieu de dire je suis un salaud, pose-toi vraiment allemand la question.
Non, mais est-ce qu'il s'est soigné depuis ? Est-ce qu'il voit quelqu'un depuis ? Est-ce qu'au lieu de dire.
Oui, oui, il continue à voir son psy, ouais.
Moi, d'accord.
Ouais. Oui, oui.
Et comment réagit à l'entourage à tout ça ? Votre belle-sœur, depuis que vous avez vous vous êtes séparés, comment tout le monde reste
quand
même ?
Ah, bah, elle est de mon côté.
Elle est de votre côté, bien sûr.
Oui, et puis bon, elle se rend compte de comment, enfin, elle se doutait de comment étaient ses parents. Hein, parce que...
Je vais vous dire quelque chose, Sylvie. J'ai eu une jeune femme qui m'a appelé il y a un an à peu près de ça, et qui avait été violée par son frère. Et tout le monde, les deux parents, hein, avaient fait vraiment l'autruche, quoi. Et quand elle en a parlé, en fait, elle expliquait. Combien elle avait été blessée par le fait que on ait enfoui tout ça, vous voyez.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et c'est ce que vos beaux-parents ont fait quand votre belle-sœur a été touchée, visiblement.
Exactement.
C'est ce qu'ils ont fait aussi quand le cousin a été violé et que lui a été touché. Il a été agressé par ce fameux, j'ai bien compris, hein, par le voisin.
Alors, il a été agressé par un voisin qui avait une soixantaine d'années à l'époque. Et son cousin aussi.
Et il en avait parlé à ses parents ou pas ?
Alors il se souvient plus, parce que c'est une
on
période.
On se souvient de ça, Sylvie.
Eh ben,
se souvient de ça. On se souvient de ça. C'est impossible. C'est la première fois, je vais vous dire. C'est la première fois qu'on me dit. Ah ben, j'ai été touché et puis je me souviens pas si je l'ai dit ou pas et puis je me c'est impossible. C'est impossible.
Alors, il m'a dit qu'il se souvenait, alors que depuis que j'en avais parlé, comme on avait parlé, on a su qu'il y avait plusieurs personnes qui ont été violées, et il y a même eu un petit garçon qui s'est suicidé par la suite. Hein. Enfin, devenu homme, hein, j'entends.
Oui.
Mais il y a quand même eu quelqu'un qui s'est suicidé. Hein. Il y a eu pas mal de. Enfin, ça doit se compter par vingtaine, hein, les enfants qui sont passés. Hein. Et il m'a dit, un jour en venant du travail, il me fait, j'ai eu un flash. Il me fait, voilà, je me souviens d'un souvenir où c'était un dimanche après-midi, on était enfermés dans une chambre avec donc mon cousin, et on jouait, et il se met à pleurer. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, on jouait, bon, voilà, on se touchait. Bah, je fais, oui, tu voilà, t'es avec ton cousin, t'as un an différent.
Tu touches kékette un peu.
Voilà, et il me fait, non, tu comprends pas. Il me fait, tu comprends pas. Il fait, On était en train de jouer à se mettre des choses entre les fesses, qui me dit. Et ouais. Il fait ça à 8 ans. On n'a pas conscience. C'est pas vrai. On ne peut pas connaître ça. Voilà.
Se mettre et des choses entre les fesses, c'est curieux.
Des objets, ouais. Mm. Et moi, je suis même mais persuadée que le cousin, donc agresseur et agressé, n'est même pas au courant. Je suis sûre que c'est même pas, ça n'a même pas passé les frontières de sa tante. Puisque quand il en a parlé à sa tante ouvertement, là, déjà, il a parlé du viol conjugal, elle a dit « le viol conjugal, ça n'existe pas ». Et après, quand il a parlé de son viol, du viol de son propre fils par le voisin, elle a fait comme si ça n'existait pas. Elle est restée scotchée que sur son cas, lui. C'est-à-dire, oh, mon pauvre, tu as été violée. Mais elle n'a pas parlé une seule seconde de sa sœur. Elle n'a pas parlé une seule seconde de moi, puisque moi, de toute façon, ce n'était pas un viol. Et elle n'a pas parlé une seule seconde de son propre fils, enfin, ni de sa nièce. Enfin, un truc de malade. Enfin, c'est totalement malsain, quoi. Enfin, je me dis, c'est fou, quoi. Et c'est vrai qu'on mari, je me souviens, quand je l'ai connu, il m'avait dit tout ce qui est avant la mort de ma mère, je ne m'en souviens pas. Alors, ça m'avait paru bizarre. Et j'avais creusé, j'avais dit, c'est pas possible, tu dois avoir des souvenirs quand même d'avant, de ta mère. Elle est morte, t'avais 9 ans, c'est pas possible. Et en fait, je pense que peut-être que oui, il y a eu un clivage, je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa tête où il a effacé ça, je ne sais pas. Mmh. Et en tout cas, bon, les parents, de toute façon, sont complètement, enfin pour moi, ce n'est même pas des parents, moi je les appelle les Thénardier, hein. Enfin, très clairement, les Thénardier. Je me dis, mais comment... j'ai dit à mon mari, j'ai dit, mais tu te rends compte que ce qu'ils te disent, chut, faut que ça reste entre nous quatre, c'est, ça se trouve, c'est exactement ce qu'un violeur dirait. C'est ce que tu as entendu. C'est pour moi, c'est ni plus ni moins que les complices de ce violeur. Point. C'est horrible. C'est horrible. Mais en même temps, c'est vrai que j'oublie pas que oui, il y a une perversité qui existe en mon mari, ça c'est clair. Et ça, j'avais pas pris, j'avais pas mesuré toutes les, j'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas vu qu'il y avait une telle résonance en lui, en fait. Parce que je pense aussi que j'avais pas toutes les cartes en main non plus. Parce que j'étais pas, il m'avait pas, enfin, j'étais au courant de rien.
Vous
de
avez
ce qui
pas,
s'était passé dans sa
famille. Non. Non, on ne vous avait pas parlé de ça et on aurait dû vous en parler. Mais c'est compliqué en même temps, c'est compliqué. Il y a, si vous voulez, si votre mari vous avait dit, vous savez, parce qu'il y a juste quelqu'un qui a mis amnésie traumatique. On a déjà évoqué l'amnésie traumatique. Mais il n'a pas vécu ça, puisque quand il vous viole et que. Vous lui dites, tu te rends compte de ce que tu as fait, que ça déclenche le tout, et que vous interrogez sa belle-sœur, et que vous l'interrogez ensuite. Il vous dit tout de suite, il vous livre sa petite cuisine du cousin qui a été violé, que lui aussi a été touché, mais qu'il ne se souvient plus s'il l'a dit ou pas. Vous voyez, c'est là où ça ne tient pas debout. Parce que s'il avait été violé, et qu'il ne s'en souvienne pas du tout, vous voyez, ça collait. Si le fait que vous lui disiez ça, d'un seul coup, bam, révélé, mais moi aussi, ça me m'éveille. Mais là, il vous raconte un truc qui ne tient absolument pas debout.
Donc vous pensez qu'en fait,
Je pense qu'il a une déviance et que entre les jeux où on se met des trucs dans les fesses avec le cousin, le viol qu'il a sans doute subi, parce que de toute façon, si le cousin y a eu droit, je pense que votre mari a pu y avoir droit aussi.
Ah oui. Et sa sœur aussi.
Sa sœur, c'est lui qui l'a agressé, le voisin.
Alors le voisin a agressé sa sœur. Le cousin a violé donc sa sœur et lui, il a aussi il a agressé sa sœur.
Ouais.
Et le pire, c'est qu'il y a une répétition, c'est que même quand sa sœur était un peu plus vieille, bon, elle a eu une obésité morbide, hein, Elle a eu un nœud gastrique et tout. Donc maintenant, il y a des choses, voilà, bah, le puzzle se remet, hein. Tout est limpide. Et elle me, voilà, elle a eu même un problème avec un commis de cuisine parce qu'elle faisait ses études dans, on va dire, comment, dans les métiers de bouche, quoi. Et qui a voulu l'agresser et elle a sauté de la fenêtre du premier étage pour s'enfuir. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte que c'est une répétition? Est-ce que tu te rends compte que c'est une répétition? Que, enfin, les choses se répètent à intervalles réguliers. C'est après, c'est vrai que c'est très difficile. Du coup, il y a un tel mélange entre, oui, chez mon mari, entre la perversité, parce qu'en effet, il y a une histoire de perversité et...
Il y a une perversité, une grande perversité chez votre mari. Que vous l'ayez chopé à mettre des trucs dans votre verre et que vous me disiez qu'en ayant bu 2-3 verres, vous vous souveniez plus de rien le lendemain, vous vous rendez compte? C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est intordu.
Ah oui.
Et je souhaite que vous ne découvriez pas d'autre chose sur lui, quoi. Parce que...
J'espère.
Ouais. Il nous reste que 30 secondes, Sylvie. Donc,
oui.
On a passé une heure ensemble, mais...
J'accaparais tout le temps.
Il fallait. Ça arrive de temps en temps.
Ouais.
Et il y a beaucoup de témoignages de soutien, hein, de personnes qui, ce soir, vous disent de tenir la barre, que vous êtes une mère courage, hein, quand même, parce qu'on a peu évoqué ces deux enfants autistes, mais vous êtes là encore pour eux, je suppose. Donc,
il faut
garder la barre, il faut garder la tête froide. Mais en tout cas, protégez-vous de cet homme. Hein.
D'accord.
Ça vaut quand même le coup d'aller voir un avocat et de lui demander comment vous pouvez vous protéger, ou un juriste, vous voyez ? De quelle manière ?
J'ai vu mon avocate pour le divorce, déjà.
Oui.
Elle est au courant. Elle m'a dit, oulala, en principe, je ne devrais pas entendre ça.
Oui.
Bon, en même temps, elle connaît le droit au niveau des victimes, etc. Je serais bien défendue. Bon, elle m'a dit, pour l'instant, de toute façon, il n'y a pas de pénal ni rien. Elle m'a dit, écoutez, pour l'instant, si c'est pour vous reconstruire, elle fait, en effet, le pénal, ça risque d'être extrêmement long, extrêmement douloureux pour vous.
Très bien. En tout cas, je vous souhaite du courage, ma chère Sylvie. Et
merci beaucoup.
Merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Mais protégez-vous, surtout. Hein. Et puis, n'hésitez pas à me rappeler pour me tenir au courant. Vraiment.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie, Sylvie. Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.